Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ta Face B. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode Damien. Salut Damien.
Hello, comment ça va?
Bien et toi?
Ça va très bien.
Ravi de t'avoir pour ce podcast Ta Face B. On va pouvoir en apprendre un peu plus effectivement sur Ta Face B à toi Damien, mais on va commencer comme tu le sais par Ta Face A. Donc en une trentaine de secondes, ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie.
Parfait, donc je m'appelle Damien Silas, je travaille et je suis directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, qui est le plus gros regroupement de commerce de détail au Québec pour toute la province. Et nous travaillons en donnant de la formation, en faisant des événements, en faisant une multitude de prises de position et de services que nous offrons à nos membres.
Parfait. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, donc cqcd.qc.ca
ORG tout simplement.
Ok, parfait. Bah merci à toi Damien. On va basculer maintenant sur ta phase B et on va démarrer par le sport. Je pense qu'il y a pas mal de courses dans les sports que tu pratiques, c'est
oui,
ça?
Marathon. Pour moi, la vie est un marathon, autant au travail, autant à la maison, autant dans la vie de tous les jours. Le fait de faire un marathon, c'est permettre de mieux se comprendre et de comprendre surtout comment notre corps fonctionne, pas uniquement le cerveau, mais comment on peut aller chercher au fond de nous-mêmes la force lorsqu'on est épuisé. Et c'est une expérience toujours bouleversante, épuisante. On dit toujours, c'est la dernière fois que je le fais, puis on le refait chaque année. C'est la même chose lorsqu'on gère une vie, on gère une famille ou un travail. C'est vraiment aller chercher au bout de soi-même ce qu'on ne pense pas encore avoir. Et c'est un exercice physique, mais psychologique extraordinaire. Et un bon chef d'entreprise ou un bon chef de famille et devrait faire un marathon une fois dans sa vie pour aller mieux se connaître et pour aller chercher à combattre ses limites personnelles. C'est facile à dire.
Je ne peux qu'approuver ce que tu dis. Étant marathonien, moi aussi, j'approuve
fortement ce que tu dis. Quand on est au 35e kilomètre, on a juste envie
le fameux 35e.
Ouais, le fameux mur. Quand on commence à voir les gens qui tombent autour de nous.
Exact. Et quelle est la course, le prochain marathon prévu? Est-ce que tu as déjà une date, un marathon prévu?
Alors, ça sera sans doute celui de Montréal, qui est le 24 septembre, si ma mémoire est bonne. C'est un week-end. Oui. C'est fin septembre.
C'est ça.
Donc, mes voyages, en général, sont toujours des voyages où la course a une grande importance. Donc, j'essaie toujours de voir comment on peut courir pendant mes voyages. J'étais il y a 2 semaines à Cuba, à La Havane, au centre-ville. Oui. Et tous les matins, je courais sur ce qu'on appelle le Malecón, le bord de mer. Et à ma grande surprise, la pollution était énorme. Et c'était assez difficile de le faire. Mais tous mes déplacements, en général, sont avec de la course. C'est vraiment très, très important. Pour moi, c'est mon équilibre.
Parfait. Bah, écoute, c'est noté pour le sport. On va basculer maintenant, Damien, sur les films. Est-ce que si tu pouvais nous citer un film culte? Je sais que c'est souvent un exercice compliqué sur ce podcast-là d'avoir qu'un seul film, mais si tu en avais un à citer, ça serait lequel et pourquoi?
J'ai choisi Amadeus, que j'ai regardé quand je devais avoir 7, 8 ans, 9 ans. Donc ça vous dit un peu l'âge que j'ai, parce que je suis au moins plus de 40, 45 ans. Film de Milos Forman. Je pense que c'est ce film qui m'a ouvert les yeux sur un de mes amours cachés, qui est la musique classique, qui m'a fait découvrir la beauté de la musique, qui m'a fait découvrir naturellement la folie de Mozart, qui est le plus grand, on s'entend, et qui m'a permis de sortir de la cage de la préadolescence, d'aller voir qu'il y avait d'autres choses derrière le mur. Et donc, ce film m'a permis de connaître Mozart, m'a permis de connaître son œuvre, m'a permis de lire, m'a permis de me construire indirectement. Je pense que j'ai vu une dizaine de fois et je pourrais le regarder encore. La musique me porte et la vie de cette personne, de ce génie aussi.
Très inspirant, effectivement. Mais comme tu le dis, ouais, ces films-là qui font partie un peu des films qui vieillissent pas, en l'occurrence, qu'on peut revoir, et puis
Culte.
effectivement encore plus
Tout à
sur
fait.
cette vie de Mozart. Ok, du temps pour des séries TV, et si oui, lesquelles ou laquelle?
Alors, bon, j'en ai plusieurs, mais une qui est assez fantastique que je viens de terminer il y a quelques temps, c'est Occupied, Occupé en
Ok.
français, qui est une série danoise, bouleversante elle aussi de réalité, parce qu'ils l'ont écrit avant l'invasion de la Russie en Ukraine, et elle touche réellement la problématique mondiale dans laquelle nous sommes actuellement, géopolitiquement parlant et énergiquement parlant. Et c'est le Premier ministre du Danemark qui essaye d'arrêter la production de pétrole et impose à l'Europe une nouvelle énergie qui est faite à partir d'une pierre. Et naturellement, l'Europe s'y oppose et demande à la Russie d'envahir les forages pétroliers dans la mer au Danemark. Et on a l'impression de vivre ce qu'on vit actuellement.
Vécu.
Ça fait peur parce que ça montre le pouvoir de l'énergie et le pouvoir de politiciens et le pouvoir des armes. Et c'est très très bien écrit, c'est d'actualité. Et j'aurais voulu écrire ce scénario. J'aurais pas été capable, mais j'aurais voulu écrire. C'est vraiment vraiment extraordinaire.
Ouais, sur pas mal de séries, effectivement, c'est un bon exemple. On sent la réalité qui se rapproche de
Est-ce
ces
que tu
films,
l'as
surtout
vu?
de tout qui font un. Non, je l'ai pas vu, mais je pensais à Handmaid's Tale, par exemple, qui est sur d'autres sujets politiques isolationnistes, avec malheureusement de plus en plus de femmes qui ont du mal à faire des enfants aujourd'hui. On voit des sujets sur un contexte moins géopolitique, en l'occurrence, mais on voit effectivement beaucoup de séries qui sont plus de l'ordre de l'anticipation, plus que de la science-fiction, en l'occurrence, qui présentent un futur proche sur lequel, malheureusement, on devient de plus en plus, ça rejoint le présent en l'occurrence. Donc,
Tout à fait,
mais
non.
écoute, ouais, ça m'intéresse cette série clairement. Je pense que c'est comme tu dis, c'est dans l'air du temps.
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est une série, on a l'impression que c'est simplement
C'est la
un
vraie vie.
reportage de ce qui se passe actuellement, en sachant que, avec l'OTAN, la Finlande et la Suède ont récupéré, ont rejoint l'OTAN, etc. Et tous ces pays sont imbriqués dans cette série. C'est surprenant.
Ok.
Vraiment. À
On
voir.
va passer côté musique maintenant, Damien, avec un artiste que tu peux nous citer, un artiste culte, ou une
Alors,
chanson même.
bon, il y en a tellement, mais je crois que pour moi, le seul qui soit capable encore de... Il est décédé un 14 juillet, pour un anarchiste, c'est fallait le faire. C'est Léo Ferré. Léo Ferré, avec le temps. Et c'est intéressant parce que dans la trame dont je parle, je parle souvent de folie, d'audace, mais il y avait une folie musicale, une folie au niveau des mots, mais une folie positive. Et avec le temps, ben, c'est une chanson qui est intemporelle, qui exprime toujours la force de vivre le moment présent et de se dépêcher de le vivre comme si à chaque jour c'était le dernier jour. Et quand on écoute cette chanson, ben, on s'aperçoit que on n'a pas fait grand-chose, mais c'est fabuleux, c'est bouleversant, c'est vraiment bouleversant, c'est une beauté musicale et verbalement.
Ouais, pour toutes nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas ce morceau de Ferré, plongez-vous tout de suite sur votre Spotify, Apple Music ou autre
Avec
pour
le temps.
aller l'écouter tout
Oui,
de
parce
suite.
que je ne vous la chanterai pas.
C'était ma prochaine question, mais bon, tant pis.
Non.
On passe au prochain segment.
Alors,
Et Damien, quel livre tu lis en ce moment?
je viens de terminer, moi qui travaille dans la croissance et le capitalisme effréné, etc.,
Ouais.
je viens de finir un bouquin qui est extraordinaire, qui s'appelle Les limites à la croissance et qui a été
OK.
écrit par Denis Meadows. Et en vous faisant une histoire courte, en 1972, le Club de Rome, qui était le G7 maintenant, ou G20 maintenant, a demandé au MIT à Boston, qui est l'université, à un prof de faire une étude sur la croissance, sur les 200 ans de la croissance, 150 ans avant 1972 et 50 ans après 1972. On s'entend que les 150 ans avant, il n'y avait pas trop de surprise, mais où ça a été un choc frontal, ça a été pour les 50 ans plus tard, parce que l'objectif était d'utiliser, c'était le début de l'hégémonie des grands ordinateurs, calculateurs, etc. Et donc, avec une dizaine d'autres professeurs, ils ont pris quelques trames générales comme l'immigration, la pollution, les investissements, la démographie, etc. Ils ont mis ça dans cette machine à saucisse et ils se sont aperçus, quand la saucisse est sortie, que c'était catastrophique. Et puis, ouais. Alors, ce livre, qui a été écrit en 1972, a eu un succès bœuf. Je crois que c'est 12, 13 millions voire 15 millions d'exemplaires vendus. Sauf que, naturellement, c'était pas ce qu'attendait le Club de Rome. À chaque 10 ans, ce livre est remis à jour. Et donc, là, nous en sommes à la cinquième édition. Mais ce qui était, ce qui faisait peur, ce qui fait peur, c'est que, en 1972, ils annonçaient la fin du capitalisme, la fin de la croissance, et encore une fois, un peu comme le film dont je vous parlais tout à l'heure, Occupied, sauf que là, ce sont des scientifiques et des économistes qui parlent, ils décrivent la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et donc, ils disaient que dans 50 ans, je vous laisse faire le calcul, 1972, à plus de 50 ans, ça fait 2022. Donc, 2022-2025, ils annoncent la fin d'un capitalisme effréné. Ils annoncent la fin de ce que nous vivons actuellement d'un point de vue civilisation, pour différentes raisons. D'un point de vue politique, parce que nos politiciens ne prennent plus des décisions à moyen long terme, c'est juste du court terme, on s'en fout, on reste 4 ans après, advienne que viendra, parce qu'on se retrouve dans un monde où l'énergie devient difficile d'accès, on le voit, qu'est-ce qui se passe avec le gaz, avec le pétrole, etc. actuellement, on se retrouve dans un monde où la biosphère est en train de disparaître à 60-70%, c'est catastrophique. On se retrouve dans un monde où l'immigration environnementale, climatique, pardon, est en train d'exploser. Et ce qu'il y a dans le problème, c'est que lorsque vous lisez ce livre, qui a été écrit il y a 50 ans, et que vous lisez ça, vous dites, mais je regarde les informations, c'est ce que j'entends. Donc la question à se poser, est-ce qu'on peut parler de décroissance? Est-ce qu'on peut parler d'un autre système que le capitalisme qui tire à sa fin? Parce qu'on tire toujours la matière première pour produire jusqu'à la fin, et après advienne que pourra. Donc c'est vraiment pas un livre positif, dans le sens où il annonce vraiment la fin du capitalisme avec tout ce qui en découle. Mais c'est passionnant à voir si ça se produira, mais force est de constater que on arrive vraiment à un mur et on va voir quand est-ce que, si on va le frapper.
Ok, bah écoute, c'est noté pour nos auditeurs auditrices, donc les limites à la croissance, donc que tu recommandes effectivement en lecture. On va aller voyager avec toi, Damien, tu vas nous emmener en Équateur, c'est ça? Tu voulais nous parler de ce voyage que tu as pu faire là-bas et qui reste un des plus mémorables.
Bah, j'y ai habité 5 ans, donc au-delà du voyage, j'ai pu m'imprégner d'un pays qui est fantastique, qui est le plus petit pays d'Amérique du Sud, et qui est le seul à avoir l'ensemble des microclimats de toute l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'en une journée, vous pouvez traverser ce pays de la côte jusqu'à l'Amazone, en passant par l'Altiplano et les Andes, en une journée, ce qui est impossible lorsque vous êtes au Chili, qui fait 4400 km de long, au Brésil, qui est immense, ou à l'Argentine, qui est immense. Donc, il y a une diversité de la biomasse qui est littéralement extraordinaire. C'est un des pays les plus pauvres, avec Haïti, en Amérique, sur le continent américain. Pourtant, un des plus riches, premier producteur de roses, de bananes, troisième de crevettes, quatrième de pétrole, etc. C'est minimalement quelques familles qui gèrent tout ça, et le reste, malheureusement, vivent sous un seuil de pauvreté. Et c'est un pays où très 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 riche culturellement, une des plus vieilles cultures qui s'appelle la culture Valdivia, qui a 6 000 ans avant Jésus-Christ, qui est là-bas, et C'est l'antithèse de ce on nous inculque dans nos processus à l'école. C'est-à-dire que quand j'y suis arrivé, je pensais pouvoir peut-être changer quelques affaires, mais finalement, non, ces gens n'ont pas forcément envie de changer, mais ont simplement envie de prendre le temps et de vous montrer qu'il y a d'autres manières de vivre. Et de travailler, et c'était un apprentissage constant et permanent, vraiment, vraiment intéressant.
Ok.
On y mange bien.
Parfait. Bah écoute, merci. Ouais. Merci de ce partage en tout cas. Et on va basculer sur un moment de vie aussi qui a eu un impact sur toi, sur ta personnalité. Tu veux nous parler de ta vie comme itinérant, c'est ça?
Oui, mais c'est des moments de la vie où on s'en passerait. Non, non, j'ai eu des hauts, des bas.
Oui.
Puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut être capable de s'en sortir. Je me séparais, je revenais d'Équateur, étant même polyglotte et avec des diplômes en poche. Je savais que ça allait être difficile de me retrouver un travail ici au Québec en n'ayant pas de réseau, aucun réseau. Et donc, je dirais que ça a été un peu la galère. Je perdais la garde de mon fils, j'avais plus de travail, etc. Donc, je me suis laissé peut-être aller comme un bateau à la dérive. Et donc, je me suis retrouvé pendant quelque temps comme itinérant. Et le faire en hiver, c'est quelque chose au Québec,
Oui,
parce qu'il fait froid.
surtout Montréal, oui, effectivement.
Il fait froid, donc j'avais squatté une usine désaffectée dans Pointe-Saint-Charles. Et vivre sur un carton, dormir sur un carton au mois de novembre, quand il commence à faire les moins 15, moins 20, fin novembre, c'était quelque chose. Et ce qu'il y a d'incroyable et paradoxal, c'est que j'avais ma carte de crédit, j'aurais pu rentrer en France chez moi et me dire, OK, j'oublie tout ça, je recommence à zéro. Mais il fallait que je vive ce processus que j'ai vécu, que j'ai gardé longtemps avec moi et pour moi, sans en parler à personne. Donc, j'ai pas fait de burn-out, j'ai pas fait de dépression. C'est étonnant. Déshydraté, je me suis retrouvé. Un de mes amis médecins m'a envoyé d'urgence à l'hôpital pendant quelques jours, etc. Et j'ai remonté la pente. Le dessin m'a permis de m'en sortir. C'était, je pense, ma force pour m'en sortir. Et puis, en faisant une histoire courte, j'en suis sorti. J'ai eu la chance de récupérer mon fils par la suite et qu'il vienne vivre avec moi. Et j'ai travaillé, etc. Et quand l'ancien maire de Montréal m'a proposé de mettre en place la Société de développement social de Ville-Marie, qui était le premier courtier social en Amérique du Nord, et le but était de trouver des solutions pour les itinérants au centre-ville de Montréal, j'ai tout de suite accepté. C'est un nouveau projet qui fonctionne 15 ans après, avec une cinquantaine d'employés d'ailleurs. Et le but, c'est de la réinsertion
Bravo.
d'itinérants à partir des sièges sociaux dans le centre-ville. Je pense que la boucle était bouclée. Et quand je me suis acheté mon appartement dans Pointe-Saint-Charles, en m'asseyant le premier soir dans mon sofa, je me suis dit, zut, cette fameuse usine, elle est à quoi, 600, 700 mètres d'un appartement que je venais de m'acheter au bord du canal. Et j'ai pris mon fils qui était ado, et je lui ai dit, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Elle est toujours là, l'usine. Mais c'est pour ça, c'est intéressant parce que la vie est faite de haut, de bas. On achète, on vend, on acquiert, on collectionne, et on peut tout perdre. On peut tout perdre. Et c'est ce qu'il y a de fabuleux, c'est que je pense pas être attaché. J'aime les belles choses, mais je pense pas y être attaché. Mais c'est dommage de toujours vivre les cas extrêmes pour s'en rendre compte. Alors, ma pilule pour avoir accepté ça, c'est que pour mes 40 ans, j'ai regroupé tous ces dessins. Je me suis fait faire un livre en 55
Ouais.
exemplaires et
Excellent.
que j'ai distribué à mes amis, à ma famille, pour leur expliquer, c'est à peu près 8, 9, 10 ans après, pour ensuite leur expliquer un à un la signification de ce livre et par où j'étais passé. Donc,
Excellent.
C'est intéressant. Et ça fait partie de la vie. Et ça vous permet ça vous permet de mieux la comprendre et de mieux nager dans cette vie qui n'est pas forcément toujours si facile.
Ben en tout cas, merci beaucoup pour ce partage de ce moment de ta vie. Effectivement, très inspirant. Puis effectivement, voir que tu as pu t'en sortir. Et justement, tu parlais de dessin. C'est le prochain segment. Qu'est-ce que tu as le temps de faire à côté de ta façade qui te prend déjà du temps? Puis tu me parlais que la course te prend également du temps.
Ça prend beaucoup de
Est-ce que
temps.
l'art contemporain, le dessin, ça fait partie de tes hobbies? Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans tes hobbies,
Alors
par exemple?
la musique pour moi est essentielle, c'est ce qui m'a
Oui.
sauvé depuis tout temps. J'aurais rêvé d'être musicien, je ne le suis pas, mais j'ai vécu des rêves. Un de mes rêves était de... J'avais suivi un cours de mélomanie à 25 ans mon professeur, j'étais son premier élève, m'a un jour dit que Pierre Calpellado, son bonheur était de venir aux répétitions et de s'asseoir au milieu de l'orchestre symphonique de Montréal et d'écouter la musique, simplement l'écouter, en disant, allez-y, faites comme si j'étais pas là. Et je me suis dit, un jour, je le ferai. Et depuis 20 ans, je suis sur des conseils d'administration. J'étais président d'Appassionata, qui est un orchestre de chambre. J'étais 6 ans avec l'Opéra de Montréal. Et là, je suis avec Arion, qui est un orchestre de chambre fabuleux. Mais
OK.
j'ai fait ce, je me suis pris, non pas que je me suis pris pour déclater, mais j'ai eu la chance de m'asseoir et de dire, OK, vous savez quoi, j'assiste à votre répétition, faites comme si je n'étais pas là. C'était un pur bonheur. Égocentrique peut-être, mais c'était une coche qui était faite dans ma vie. Donc, la musique classique pour moi est essentielle
OK.
parce que d'aider, j'ai fait plusieurs programmes d'aide pour des écoles secondaires et pour faire des bourses avec des instruments de musique. Donc, pour moi, c'est important. L'art contemporain aussi, ça m'intéresse. Il y a fort longtemps, j'étais associé avec une galerie d'art contemporain. Donc, peinture, sculpture, pour moi, c'est toujours important d'avoir ça chez moi, d'avoir des tableaux, des couleurs, d'avoir des sculptures en bronze ou en des sculptures inuites qui peuvent être touchées, qui peuvent être déplacées, qui peuvent être choquantes, qui peuvent être douces, qui peuvent être. C'est selon mes humeurs du moment, mais je crois que. Dans ce monde de brut, on a besoin de beauté, on a besoin d'avoir un chez-soi important qu'on essaie de protéger et qu'on essaie de mettre comment dirais-je, à notre façon et de vraiment de le protéger. Et le troisième, je dirais, c'est, ben, je suis un gars, donc j'adore les voitures et donc depuis ma jeunesse, je suis fou de voitures anciennes. Donc, j'ai une vieille Allemande de 30 ans avec laquelle je suis venu d'ailleurs aujourd'hui, que j'adore et que j'astique
Ok.
quand je suis frustré les week-ends et que je lui parle. Donc très, très, très égocentrique, le type. Mais je le fais. J'insiste à le faire. Donc voilà, ça fait déjà pas mal. Et beaucoup de mentorat également avec des jeunes. Pour moi, c'est
Ok.
important de redonner tout ce que j'ai appris et tout ce que le Canada et le Québec m'ont apporté. Toujours très important.
Parfait. Bah écoute, ça aurait pu être une anecdote que cette Allemande de 30 ans, comme tu dis, que tu as avec toi, on aurait pu finir l'épisode par ça. Et je crois que.
A fait ses 30 ans cette année.
Elle a fait ses 30 ans en plus.
Oui, en plus.
Mais comme tu le sais, dans ce podcast-là, dans ce balado, on termine par une anecdote et je crois que tu voulais en partager une qui est liée à ton animal de compagnie, si je me rappelle bien.
Mais oui, j'ai un toutou. J'avais un magnifique golden quand j'étais en Équateur. Et malheureusement et horriblement pour moi, je ne pouvais pas le ramener avec moi parce que il y avait trop de problèmes de douane. Donc, ça a été un amour brisé incroyable. J'ai toujours des animaux. J'ai un énorme chat, un Maine Coon chez moi qui s'appelle Léon. Mais depuis un an et demi, j'ai décidé de reprendre un chien qui s'appelle Andreas et qui, c'est hallucinant, qui m'a permis de découvrir mon quartier, peut-être parce que je me lève tôt le matin, de redécouvrir les levers de soleil. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est tellement simple. Et aussi réhumaniser, peut-être, me réhumaniser, en prenant le contact avec mes voisins, en parlant avec eux, en jouant avec leurs chiens. C'est tellement ridicule. Vous savez, quand on vit nos vies de gestionnaire et de. On a des multitudes d'activités, d'action sociale à faire, de gestion à faire. Et vous arrivez chez vous, vous allez juste vous enfermer ou pas forcément vous partir courir seul. Mais quand vous avez votre toutou qui vous regarde et qui dit, tu sais quoi, on va se promener parce que j'en ai marre de t'attendre, et que vous le prenez, vous allez vous balader avec lui, vous rencontrez les voisins qui vous parlent de leur journée pendant que le chien joue avec son chien, leur chien. Donc c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et mon fils a quitté la maison, il a 23 ans. Donc je me suis dit, ça y est, je suis libre. Eh bien non, je ne suis pas libre. En reprenant un chien, ça demande du temps, de l'énergie.
Plusieurs fois par jour.
Oui, et puis là, on déménage et à ma grande, grande, grande fierté et chance, on peut prendre les animaux avec. Donc, il va venir au bureau avec moi 2, 3 jours semaine. Donc, c'est extraordinaire. Mais ça m'a permis, en effet, de prendre le temps, chose que j'avais oubliée, prendre le temps de voir, d'écouter, de marcher, de sentir. Et voilà, vive les chiens.
Quel est son prénom?
S'appelle Andreas. C'est
Andreas, oui, pardon. Ok, effectivement.
un,
En tout cas, merci Andreas.
oui, mais une histoire, c'est que ce chien était un chien en race d'extinction. C'est un chien qui très très vieux, un chien, c'est un berger norvégien. Et donc, ils ont découvert ces squelettes dans les bateaux des Vikings. Et il était pratiquement en extinction. Ils ont réussi à remettre la race en fonction. Et donc, c'est un chien extraordinaire. J'en suis fou d'ailleurs, mais bon, faut pas le dire.
Parfait.
Il a d'ailleurs son site Instagram, ce qui est hallucinant. C'est une façon de se défouler parce que on met rien du tout.
Eh bien, écoute, on partagera son alias Instagram sur le commentaire de cet épisode-là pour nos auditeurs et auditrices
Merci
qui auront pu
beaucoup.
effectivement mettre en image. En tout cas, merci beaucoup Damien d'avoir rejoint cet épisode de Ta Face B. Alors merci Damien.
Merci, merci à vous. C'est plaisir.
Et à tous nos auditeurs, nos auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Face B. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.